Bonjour. Nous vous proposons ce jour d'écouter deux longs textes de Jacques Prévert, dits en nos studios par Jean-François Moulin lors des missions en direct en 2001 et 2002. Le premier est « La crosse en l'air ». Le second est « Tentative de description d'un dîner de tête à Paris-France ». Nous commencerons cette émission par la rediffusion de l'entretien avec Jean-François Moulin que nous avions réalisé lors de la présentation du texte « La crosse en l'air » au cours de l'émission du 19 mars 2001. Bonne écoute.
Le texte autour duquel nous allons centrer notre émission ce soir, c'est « Crosse en l'air » qui, lui, a été écrit, ou du moins publié en octobre 1936. Et au moment où le groupe Octobre se disloquait, on ne fera pas toute l'histoire, ce serait trop long, mais disons qu'il était déjà confronté à la mise au pas de la créativité et de la contestation par la social-démocratie du Front populaire de l'époque, celle de Léon Blum. Quand on a fait comprendre à Prévert que la Marseillaise devait remplacer l'Internationale, il a pensé qu'il valait mieux déclarer forfait et ils ont arrêté les activités du groupe Octobre pour passer à autre chose. En 1936, c'est aussi au mois de juillet la date où Franco prend le pouvoir en Espagne, enfin commence la guerre du côté des nationalistes, flanqué donc de tous les curés en uniforme. Et là, pour Prévert, qui était un solide athée, la mesure dépassait l'indignation et il a écrit ce texte « Crosse en l'air » qui est un immense pamphlet, qui sera publié en octobre 36, on l'a dit, dans une revue qui s'appelait Soult, dans le numéro 5. En fait, il a été publié en deux fois. Il y a eu d'abord une première partie, publiée dans cette revue, le numéro 5 étant dédié au peuple espagnol, qui était déjà en lutte contre les fascistes, bien sûr. Et le deuxième partie devait être publié en décembre, le manuscrit s'est perdu, la revue n'est pas parue, bref, ça a fini au mois de janvier par une sortie d'une plaquette de 32 pages, un franc 50, de ce texte qui portait le titre de « Le pape sur la sellette ». Donc un texte qui garde toute sa verdeur à un point qu'aujourd'hui encore il est passablement un petit peu mis de côté dans l'œuvre de Prévert. Il faut dire que Prévert n'y va pas de main morte, nos auditeurs vont s'en rendre compte. C'est sûrement un peu long, mais c'est aussi ce qui fait le charme. Je pense que ça démarre très fort et vous n'aurez pas un instant l'idée de quitter l'antenne en entendant un texte. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, Jean-François Moulin va nous le dire en direct, ce texte.
Rassurez-vous, braves gens, ce n'est pas un appel à la révolte, c'est un évêque qui est saoul et qui met sa crosse en l'air comme ça en titubant. Il est saoul. Il a sur la tête cette coiffure qu'on appelle mitre et tous ses vêtements sont brodés richement. Mais il est saoul. Il roule dans le ruisseau, sa mitre tombe, c'est le soir, ça se passe rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare. Sur le trottoir, il y a un chien. Il est assis sur son cul. Il regarde l'évêque, l'évêque regarde le chien, il se regarde en chien de faïence. Mais voilà l'évêque fermant les yeux. L'évêque secoué par le hoquet, le chien reste immobile et seul, mais l'évêque voit deux chiens. Dégueulis, voilà l'évêque qui vomit. Dans le ruisseau passent des cheveux, des vieux peignes, des tickets de métro, des morceaux de doigts de thermogène, des préservatifs, des bouchons de liège, des mégots. L'évêque pense tristement, est-il possible que j'aie mangé tout ça? Alors le chien hausse ses épaules et s'enfuit avec la mitre. L'évêque reste seul devant la pharmacie. Ça se passe rue de Rome. Rue de Rome, il y a une pharmacie. L'évêque crie. Le pharmacien sort de sa pharmacie. Il voit l'évêque. Il fait le signe de la croix. Puis, plaçant ensuite deux doigts dans la bouche de l'évêque, il aide l'évêque à vomir. L'autre l'appelle son fils, fait le signe de la croix, puis recommence à vomir. Le pharmacien, avec les doigts qui ont fait le signe de la croix, aide encore l'évêque à vomir, puis fait le signe de la croix, et ainsi de suite, alternativement, signe de la croix et vomissement. Plus loin, derrière une palissade, dans une maison en construction ou en démolition, enfin, dans une maison pour les humains, il y a une grande réception. C'est la grande réception chez Chien de Cirque, la grande rigolade. Il y en a qui ont apporté des os, d'autres des escalopes, beaucoup de choses. Ceux qui ont la queue en trompette font l'orchestre. C'est le grand cirque des chiens, celui qui a lieu le premier vendredi de chaque mois. Mais seuls les chiens savent ça. Devant tous les chiens assis, les autres chiens font leur numéro. Le chien d'aveugle, le chien de fusil, le chien de garde, le chien de berger. Mais voilà le grand délire. Et les spectateurs aboient du vrai grand rire. Le chien de la rue de Rome vient d'arriver. Et il a sur la tête la mitre et il fait le pitre avec tous les gestes saints. Le clown chien aboie en latin, il aboie au Christ, il aboie au vendredi saint. Il dit la messe avec sa queue et tous les chiens se tordent à qui mieux mieux, notre père chien qui est aux cieux. Mais le veilleur de nuit se réveille et le monde des chiens s'enfuit. Le veilleur de nuit se rendort. Le veilleur de nuit est pris par le rêve. Rêve de silence, rêve de bruit, rêve. Rue de Rome, le ruisseau coule doucement. Dans son rêve, le veilleur de nuit l'entend. Rêve de ruisseau. Rêve d'eau, rêve de rue, rêve de Rome, rêve d'homme, rêve du pape, rêve de Rome, rêve du Vatican, rêve de souvenirs, rêve d'enfant, Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Le veilleur de nuit se réveille en répétant, parfaitement, parfaitement, Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Il se réveille, il se lève, il se lave les dents, répétant, répétant, Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Et le voilà, la lanterne à la main. Le voilà qui suit son petit bonhomme de chemin. Son petit bonhomme de chemin le mène à Rome, comme tous les autres chemins, parfaitement, parfaitement, à Rome, devant le Vatican, parfaitement. Pauvre veilleur de nuit. Le voilà perdu en plein jour, au beau milieu d'une ville peuplée de gens qui ne parlent pas la même langue que lui. Triste voyage. Soudain, il voit une petite fumée qui monte dans le ciel au-dessus des maisons. Alors il crie « Au feu !» Mais un Italien lui explique en italien que toujours il y a une petite fumée qui monte dans le ciel quand un nouveau pape est élu. Le veilleur de nuit n'y comprend rien, il hoche la tête et le soir tombe sur la campagne électorale à Rome. Le pape est élu ! Aux quatre coins cardinaux, il y a des cardinaux qui font la gueule en coin, ils ne seront pas papes, tout est foutu. C'est alors qu'au balcon, sérieux comme un pape, paraît le pape entouré de ses soupapes. Il a sur la tête la coiffure à trois cornes appelée tiare et il étend la main. La foule se prosterne. La foule cherche sa salive, la foule trouve sa salive, la foule crache par terre, la foule se roule dans son crachat, le pape avec sa main de pape fait un geste de pape. On ferme les fenêtres et la foule s'en va par la ville en répétant « ça y est, nous l'avons vu, nous l'avons touché du regard ». Un peu plus tard, assis sur ses fesses dans son carrosse de nougat doré, le grand taulier du Vatican fait le tour de son quartier réservé, et puis il rentre au Vatican, où fier lui aussi comme un pape, son vieux papa l'attend. Effusion familiale, grande zoo lacrymale. Le père a une tête de vieux paysan, il fume la pipe, il est simple, hélas, hélas, la pipe au papa du pape pipu. Alors on ouvre les fenêtres, on brûle du sucre, on ferme les fenêtres, ce qu'il faut avant tout, c'est de la tenue. Mais tous les ruisseaux mènent à Rome. Et voilà l'évêque qui surgit en agitant sa crosse. Son visage est défait comme un vieux lit. Il titube, l'indignation est générale. Le Saint-Père écarte son vieux père, qui veut faire un mauvais parti à l'évêque, et s'approchant de l'évêque lui dit « On dirait que vous avez bu ». Et il le lui dit avec une tellement grandiose expression de mépris que tous les cardinaux en sont glacés jusqu'aux os. Silence. Grand silence, mais de courte durée, car l'évêque est plus ivre que le pape ne le pensait. Et comme il a appris les mauvais mots dans un bordel de la rue de l'Échaudé, il dit ce qui lui plaît de dire. Dans tous les cas, si je suis sous, c'est pas avec ce que tu m'as payé, tout pape que tu es. Mais il éternue parce qu'il a pris froid à la tête depuis que le chien lui a fauché la mitre. Fermez les fenêtres, dit le pape. Un soupape répond à sa sainteté que les fenêtres sont déjà fermées. Excusez-moi, dit le pape, on peut se tromper. Je ne suis infaillible que lorsque je parle des choses de la religion. Soudain l'évêque. Infaillible, tais-toi, tu me fais marrer. Face de paix, les choses de la religion infaillibles. Il y a de quoi se les mordre, vieillos sans viande. J'en ai marre des choses de la religion. Et puis d'abord, pourquoi que tu es pape et pas moi, hein? Peux-tu le dire? T'as profité de mon voyage pour te faire élire, combinard, cumulard. Tout ce que tu veux, c'est te remplir la tirelire. Mais le pape le désigne dramatiquement du doigt. Barnabé, je vous mets à l'index. Alors, l'affreux vieillard éclate de rire. Il était nu. Il se secoue, il secoue toute l'eau du ruisseau. Il éternue, il est trempé comme un vieux tampon buvard, abandonné sous la pluie dans la cour d'une mairie triste, trempé comme un vieux morceau de pain dans un verre d'eau sale. Et il hurle, il tenitrue, ah, il est batte le pape, il est gratiné le pape. Et il se vautre, il plaisante salement, l'index sacré. Sais-tu où on le met, l'index, dans la rue de l'Échaudé? C'en est trop. L'autre affreux vieillard, c'est le pape, il faut appeler les choses par leur nom. Un chien, c'est un chien. Un tournesol, c'est un tournesol. Une petite fille qui joue au cerceau dans une allée du Luxembourg, c'est une petite fille qui joue au cerceau dans une allée du Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un jardin. Une fleur, c'est une fleur. Mais un pape, qu'est-ce que c'est? Un affreux vieillard. Et c'est pour ça que le catholique pratiquant, lorsqu'il se rend au cinématographe parlant, pour voir documentairement le vrai visage du Vatican, c'est pour ça qu'il fait une drôle de tête, le catholique pratiquant. Ce qu'il imaginait, ce n'était pas cette ecclésiastique pleine, mais un pape, un homme de nuage, une sorte de secrétaire de Dieu avec des anges pour lui tenir la queue. Mais cette grande photographie plate qui remue la bouche en latin, cette grande tête avec toutes les marques de la déformation professionnelle, la dignité, l'onction, l'extrême onction, la cruauté, la roublardise, la papardise, et tous ces simulacres, toutes ces mornes et sérieuses pitreries, toutes ces vaticaneries, ces fétiches, ces gris-gris, ce luxe, ces tapis, ces wagons salons, ces locomotives d'or, ces cure-dents d'argent, ces chiottes de platine, toute cette vaisselle de riche, toutes ces coûteuses et ruineuses saloperies, tout cela met le catholique mal à l'aise sur le fauteuil qu'il a payé 16 francs. Mais... sur l'écran, le pape s'en va en retroussant ses jupons blancs. Le film du Saint-Père est terminé. Voici d'autres actualités. Des militaires italiens bombardent un village abyssin. Le catholique pratiquant sent ses larmes se tarir brusquement, sent son cœur battre amoureusement, sent ses poings qui se serrent convulsivement. Il aime tellement les militaires, les civières, les enterrements, les cimetières, les vieilles pierres, les calvaires et les ossements. À chaque torpille qui tue les nègres, il pousse un petit gloussement blanc. Devant les images de la mort, la joie de vivre le saisit. Il voit là-haut dans le ciel tous les frères en Jésus-Christ, tous ses frères en Mussolini, les archanges des saints abattoirs, les éventreurs, les aviateurs, les mitrailleurs, toute la clique de notre Seigneur. Il est fou de joie, il est content. Il grimpe sur son fauteuil à 16 francs. Il acclame l'escadrille des catholiques trafiquants. Il sent monter en lui l'espoir. Un jour aussi, peut-être, il versera le sang des pauvres, le sang des noirs, le sang de ceux qui sont vraiment vivants. Mais l'enthousiasme, c'est épuisant. Et le pauvre petit malheureux catholique pratiquant, impuissant et trafiquant, le pauvre, pauvre petit, très malheureux, très catholique et très pratiquant, se rassoit sur son fauteuil à 16 francs. Et le spectacle est permanent. Il en aura pour son argent. Et le spectacle recommence. Voilà les gentils animaux des dessins animés. Mais il ne reste pas là longtemps, parce que voilà, que revoilà, le vrai visage du Vatican. Ça commence par des vues de Rome, on montre les quartiers de la ville. Dans une rue, il y a deux hommes. Personne ne les remarque. L'un de ces deux hommes, c'est le veilleur de nuit. L'autre, c'est un Italien qui n'a pas de travail, un Romain. Un Romain avec des pièces au fond du pantalon. Un Romain qui crève la faim. Les deux hommes sortent du film, personne ne s'aperçoit de leur disparition. Et là-bas, ils continuent à se promener dans Rome. Le Romain fait des gestes avec la main. Ces gestes, le veilleur de nuit les comprend. Il n'a pas besoin d'allumer sa lanterne. Ce sont des gestes pareils aux siens. Un pour serrer la ceinture, un pour montrer les devantures. Un autre geste avec la main à plat au-dessus du pavé, en penchant un peu l'épaule, ça veut dire qu'on a des enfants. Avec les doigts, on fait le compte. C'est un Romain qui a 3 enfants et pas de travail. Et ils parlent aussi un petit peu, les deux hommes. Ils se comprennent très bien. Avec très peu de mots, le Romain et le Parisien. Gangster, Mussolini. Mussolini, gangster. Ils éclatent de rire, ils se sont parfaitement compris. Une grande joie les fait rire. Gangster, Mussolini. Avanti, avanti. À voix basse, le Romain chante au veilleur de nuit la chanson interdite, partant pour l'Éthiopie. Avanti, avanti. Les fusils partiront tout seuls, c'est moi qui vous le dis. Qu'ils partent donc tout seuls les fusils, qu'ils s'en aillent. Nous resterons à la maison, et quand ils reviendront, nous irons les chercher à la gare, avec une fanfare. Le veilleur de nuit ne comprend pas toutes les paroles de la chanson, mais il en comprend le sens. Et il recommence à rire. Et les deux hommes trouvent d'autres copains, un qui travaille chez Fiat à Turin. Turin, Cassis. Le veilleur de nuit pense à l'apéritif et... ça lui donne soif. Il s'arrête près d'une fontaine. Il entend le bruit de l'eau. Il s'assoit. Il boit. Il entend l'eau. Et son rêve le reprend. Rome l'unique objet de mon ressentiment. Il dit au revoir aux autres et s'en va vers le Vatican. Il ne sait pas d'où ça lui vient, mais il a un tas de choses à dire. Et tout le temps il pensait à ces choses quand il était tout seul, auprès du brasero l'hiver, la nuit dans son chantier. Il a un théâtre dans la tête. Et dès qu'il est seul, ça recommence à jouer, et c'est des pièces terribles que ça joue, pas des tragédies à guirlandes avec des bonzes d'autrefois qui débloquent comme à l'église des histoires de fesses qui riment, mais des pièces avec des hommes de viande, avec de pauvres femmes vivantes, avec du pain, avec des chiffres, des orages de chiffres, toujours des petites sommes, et puis des hommes qui fabriquent, d'autres qui attendent tristement l'autobus sous la pluie, des vieux souliers, des petites filles qui demandent humblement un crédit chez le laitier, des hommes, des femmes, des enfants, qui se battent contre la misère, qui pataugent dans leur propre sang, dans le sang et dans la misère et dans le sang, et sur le sang de la misère, des autres se gondolent à Venise, avec des suspensoires d'hermine et des diamants aux doigts de pied, les cloches sonnent dans les églises pour que les pauvres viennent prier, mais lui, le veilleur de nuit, il veut empêcher les cloches de sonner. Il veut parler, il veut crier, hurler, gueuler. Mais ce n'est pas pour lui tout seul qu'il veut gueuler. C'est pour ses camarades du monde entier, pour ses camarades charpentiers en fer qui fabriquent les maisons de la porte Champéret, pour ses camarades cimentiers, ses camarades égoutiers, camarades surmenés, camarades pêcheurs de Douarnenez, camarades exploités, camarades de la TCRP, camarades mal payés, camarades vidangeurs, camarades humiliés, camarades chinois des rizières de Chine, camarades affamés, camarades paysans du Danube, camarades torturés, camarades de Belleville, de Grenelle et de Mexico, camarades sous-alimentés, camarades mineurs du Borinage, camarades mineurs de Viedo, camarades décimés, mitraillés, camarades de Caire de Hambourg, camarades des faubourgs de Berlin, camarades espionnés, bafoués, trompés, fatigués, découragés, camarades noirs des États-Unis, camarades lynchés, camarades marins des prisons maritimes, camarades emprisonnés, camarades indo-chinois de Pulo Condor, camarades matraqués, camarades, c'est pour ses camarades qu'il veut gueuler, le veilleur de nuit, pour ses camarades de toutes les couleurs et de tous les pays. Et tout en marchant, il arrive devant la porte du Vatican. Et il s'arrête. Devant la porte, il y a des hommes la plume sur la tête, la hallebarde à la main. Ces hommes lui barrent le chemin et lui demandent ce qu'il veut. Je viens demander au pape s'il est sourdingue. Comprenez, je viens lui demander s'il est dur de la feuille et s'il sait lire, s'il sait compter. Lui demander ce qu'il pense de la situation mondiale. Lui demander, puisque de son métier il doit être bon, comme le bon pain, ce qu'il attend pour ouvrir sa grande gueule en faveur des opprimés. Et la garde le laisse passer, croyant qu'il s'agit d'un plombier qui vient remettre un joint au robinet de la baignoire dorée, où parfois le Saint-Père vient se mouiller les fesses et le dessous des pieds. Il passe, il traverse les salons. « Tu parles d'un bobinard, mon vieil Edmond ? Quel bordel, madame Adèle ! Quel boxon, monsieur Léon ! Il glisse sur le parquet ciré, sa lanterne à la main. Il glisse si vite qu'on dirait un train ! Et le voilà qui écrase quelqu'un. Un affreux, c'est un affreux vêtu de noir. Une mèche de pétrole à la place des cheveux. La cravate blanche, les pieds douteux. Le veilleur de nuit s'enfuit. Et Laval se relève et s'époussette. Un valet s'empresse. Monsieur le comte. Et monsieur le comte Laval demande au valet si la mule du pape est visible et comment il faut s'y prendre pour la baiser selon le protocole. On amène une mule d'essai. Et l'homme d'État et la bête restent seuls en tête à tête. Le veilleur de nuit, continuant son exploration, arrive dans la grande antichambre, près du grand salon de la grande réception. C'est fou ce qu'il peut y avoir de monde qui rampe sur le paillasson. Un tas de gens connus, des gens qui sont quelqu'un, des journalistes, des hommes de main, des valets de pied, des écrivains, des banquiers, des académiciens. Le veilleur de nuit les écoute, il parle du nez, de la pluie et du beau temps, mais ils parlent surtout argent. Il y en a qui sont avec leurs femmes. Monsieur Deschets avec Madame Deschets, Monsieur Gésier avec Madame Chaisière, Monsieur Pierre Benoît, Madame Antinéa, Madame Léon Belby, Monsieur Antineus, Monsieur Salmigondi, Madame Cora la Parcerie, Monsieur Desblaires et sa veuve, Grand-papa Doumergue et ses petits-enfants, et le petit monsieur tout seul, Quenelle de Jouvenel Bertrand. Monsieur Claude Fureur, le grand pétopiomane, et puis des Léon Vautel, des Clément Daudet, des Brioches de la Rochelle, des Jacques de la Bretelle, des Maurras et des Voraces, des Henri Béraud, des Gugus, des Compères d'Oriot, des Demédeux, des Paul Morand, des Chiappes, des Henri Lavedan. Et voilà le lieutenant-colonoc de la rondelle au flambeau. Et puis les Schneider, les Devandelles, tous les vieux débris du Creusot, tous les édentés carnivores, tous les vieux marcheurs de la mort. Et ces dames, leurs dames, comme elles sont belles à voir quand on pense à autre chose et qu'on ferme les yeux. Les propos qu'elles tiennent sont tout à fait savoureux. Elles parlent du pape. Et quand elles parlent, elles font avec la bouche le même bruit désagréable que lorsqu'elles remuent leur prie-Dieu le jour de la grand-messe des morts à Saint-Laurent-Pied-de-Port. Et le pape m'a dit ceci, le pape m'a dit cela, et papati, et papata, et ces messieurs s'en mêlent. Comme je le disais au Saint-Père, dit Paul Morand à la douairière, debout les morts et à la douche, nous voulons des cadavres propres. Oh, monsieur Morand, vous êtes le roi des cormorans, et toujours tellement garnement. Et la douairière se chatouille le fessier, elle voudrait bien se le faire dédicacer. Et soudain, elle arrête de se chatouiller, et tout le monde arrête de faire ce qu'il faisait. Tout le monde claque des talons, tout le monde rectifie la position. Mussolini traverse le salon. Le voilà l'ennemi du Négus. Le voilà l'authentique Gugus. Le voilà le nouveau Poléon. Il a la drôle de tête de l'homme qui croit que c'est arrivé, mais qui ne sait pas au juste comment ça va se terminer. Il salue tout ce beau monde à la romaine, et tout ce beau monde à la romaine le salue. Soudain, Mussolini aperçoit le veilleur de nuit s'approche de lui en fronçant les sourcils. « Alors, on ne salue plus ?»« Je n'ai jamais salué personne, » dit le veilleur. Et le Duce est très embêté. « Cet homme seul se sent gêne, cette lanterne. Peut-être que c'est Diogène, on ne sait jamais. » Et le Duce, qui ne tient pas à voir d'ennui avec l'Antiquité, entraîne le veilleur de nuit dans un salon plus discret. Les voilà tous deux assis sur une banquette. « Moi, ce que je souhaite, » dit Mussolini, « c'est le bonheur de mon peuple. »« Tu l'as dit, Bouffi, » répond le veilleur de nuit. Et il se met à rire doucement. Mussolini est inquiet. Soudain, il entend du bruit. Son inquiétude grandit. Le bruit qui inquiète Mussolini vient de dessous la banquette sur laquelle il est assis. « Ce n'est rien, » dit le veilleur de nuit, « c'est le roi d'Italie. Il fait les 100 pas, il s'ennuie. »« Ah bon ?» dit Mussolini. « Moi, je viens pour voir le pape, » dit le veilleur de nuit. « Moi aussi, » dit Mussolini. « Moi aussi, » dit venant de dessous la banquette la petite voix du roi d'Italie, « j'ai rendez-vous avec lui. »« Moi, je n'ai pas rendez-vous, » dit le veilleur. « Je viens comme ça, en touriste. » »« Très intéressant, le tourisme. »« Extrêmement intéressant, » reprend Mussolini, « le tourisme. » Mais la grande porte s'ouvre. Un camerlingue apparaît. « Au premier de ces messieurs, c'est moi, » dit le roi. Et il sort, mais Mussolini donne au monarque un discret petit coup de pied et le monarque rentre sous sa banquette en hochant tristement la tête. « Le premier, c'est moi, » dit Mussolini en faisant la grosse voix. « Je vous demande pardon, » dit le veilleur de nuit, « j'étais là avant vous. »« Avanti, avanti !» Et il passe. La grande porte se referme derrière lui et le voilà en présence de celui qu'on appelle le vicaire de Jésus-Christ. Il est assis sur son Saint-Siège, le vicaire, et devant lui, 2 ou 3 douzaines de grosses vieilles femmes à barbe imberbe sont agenouillées sur le tapis. Le Saint-Père leur parle en latin. Il les appelle ses brebis. Drôle de harem, pense le veilleur de nuit. Mais voilà les femmes à barbe qui se lèvent en poussant des cris. « Pesetas bandera, pesetas, pesetas, pesetas franco !» Légère erreur, pense le veilleur. Il comprend qu'il a confondu homme d'église avec femmes à barbe et qu'il se trouve en présence des évêques cardinaux, archevêques et bedeaux des révérends pères gras à l'art, brûlés vifs par le Frente Popular dans les souterrains de Viedo. Et le Saint-Père écoute avec sérénité la plainte déchirante des malheureux prélats carbonisés. « Ah, si tu savais, Saint-Père, ce que ces barbares nous ont fait. Ils nous ont coupé les jambes et puis ils nous ont pendus par les pieds. Ils nous ont plongé la tête dans l'huile d'olive bouillante. Ils nous ont saignés comme des porcs. Ah, si tu savais, Saint-Père, combien horrible fut notre mort. Ils nous ont crucifiés sur des planches avec de sales clous rouillés. Mais Dieu, qui fait bien ce qu'il fait, Dieu nous a tous ressuscités. Et sur son nuage d'acier trempé, Sainte Tenaille est arrivée. Sainte Tenaille nous a décloués et nous avons erré dans la montagne en portant les vases sacrés. Il y avait des fruits sauvages, nous les avons apprivoisés, baptisés, et puis nous les avons mangés, et puis nous avons marché, marché, jusqu'à un tout petit village où dans sa grande automobile Saint-Christophe nous attendait. Ah, quelle horrible chaleur et quelle soif il faisait. Tout nu dans le spider, Saint-Sébastien pleurait. Il l'avait planté de banderilles, il ne pouvait pas les enlever. Sainte Tenaille s'était endormie, pas moyen de la réveiller. Saint-Sébastien s'impatientait. On est allé chez un médecin. Mais la porte était défoncée, toute la maison saccagée. Hélas, Saint-Père, horreur, nous vîmes, comme nous vous voyons, Saint-Père, comme nous vous voyons, nous vîmes le médecin et sa dame suspendus à la suspension. Horreur, Saint-Père, horreur, nous vîmes, sur le carreau de la cuisine, les 32 filles du médecin, éventrées par les miliciens. Horreur, Saint-Père, horreur, nous vîmes, un homme étrange qui grelottait, on aurait dit un grand poulet qui sanglotait, c'était l'ange gardien des jeunes filles, plumé vif par les miliciens. Horreur, Saint-Père, horreur, nous vîmes la bienheureuse Sainte Albumine dans une bouteille emprisonnée, et tout en haut, du haut de l'église, la bienheureuse Sainte Camomille empalée sur le clocher. Horreur, Saint-Père, horreur, nous vîmes aussi. Mais soudain, midi sonne. On entend un grand bourdonnement. C'est le ventre des prélats espagnols qui grogne parce qu'il n'est pas content. Bon appétit, mes agneaux, bon appétit, mes brebis. Vous me direz la suite au dessert, dit le Saint-Père. Et la délégation des malheureux prélats carbonisés, miraculés, béatifiés et affamés se précipite vers la grande salle où est préparé le banquet. Silence. Silence troublé par une discrète petite toux. C'est le veilleur de nuit qui fait histoire de montrer qu'il est là. Et le Saint-Père, un peu étonné, fait celui qui ne le voit pas. Il met sa tête entre ses mains, il se recueille et tout en marmonnant un petit Notre Père qui est aux cieux, à travers ses doigts entrouverts, il regarde à quel genre d'homme il a affaire. Et comme l'homme est plutôt mal fringué, le Saint-Père est un peu inquiet et il se dit: quel est cet homme? Que me veut-il? Comment est-il entré ici? C'est peut-être un dévoyé, un anarchiste, un terroriste, un illuminé, un trotskiste. Dans les ménages papales, l'étonnement, la crainte et la curiosité se baladent en liberté, et le Saint-Père continue sa prière. « Que votre volonté soit faite. C'est peut-être cette vache d'évêque qu'il a envoyée pour me sectionner le gésier. S'il fait un pas de plus, je tire sur la sonnette pour appeler les carabiniers. Sur la terre comme au ciel, il n'a pourtant pas l'air mauvais. C'est peut-être un gros industriel du textile qui vient pour que je casse le mariage de sa fille et s'est déguisé en loqueteux pour que je lui fasse un prix. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Ah, si tu crois m'avoir, alors là, c'est moi qui t'aurai, mon vieux. « Pater noster qui êtes aux cieux. Peut-être que c'est un de mes fils naturels. Il va m'appeler papa, me demander des ronds, me voilà dans de beaux draps. Quel dommage qu'on ne soit plus autant des Borgia, autant des oubliettes et des petits flacons. Ne nous laissez pas succomber à la tentation. Je vais tout de même lui poser quelques questions. Sed libera nos amolo. Amen. Quel bon vent vous amène, mon ami? Je n'aime pas la prière, dit le veilleur de nuit. Ça fait un sale petit bruit, un sale petit bruit de poussière. On dirait qu'on bat les tapis. Tout de même, je vous en prie, Saint-Père, comme on dit, je vous en prie, ne m'appelez pas votre ami. Gardez vos distances. Je ne suis pas venu vous baiser l'anneau. Gardez votre truc sur la tête. Moi, je garderai ma casquette. Vous me demandez quel bon vent m'amène. Je suis venu à pied. Le vent était mauvais. Mais tout de même, entre parenthèses, quel drôle de chapeau vous portez. Et le veilleur de nuit s'esclave. Il s'esclave comme une girafe, il se tord comme une baleine, et son rire, c'est comme le rire nègre des nègres, comme le fou rire des fous, comme le rire enfantin des enfants, c'est le rire brut, le rire qui secoue, le vrai fou rire, vraiment, comme le vrai fou rire du printemps, vous savez, quand le printemps arrive à toute vitesse en chantant à tue-tête, le printemps fou, le printemps un peu saoul, est tellement content, le printemps, il a sur l'oreille la grande fleur qu'on appelle soleil, une fille toute neuve, toute joyeuse, toute nue dans les bras. Il marche sur la nouvelle herbe, et la nouvelle herbe frémit sous la caresse de ses pas. La fille est jolie comme un rêve, tellement jolie, que le printemps lui-même n'en revient pas. Elle tient dans la main un oiseau nouveau, c'est l'oiseau de la jeunesse, l'oiseau qui rit aux éclats. Et voilà le pape qui pousse un long cri de détresse, et qui pique une tête, et qui roule à terre, et qui pique une crise, et qui se relève en hurlant. Il a reçu un éclat de rire dans l'œil, et continuant son hurlement, il tourne autour de son fauteuil en courant, poursuivi par l'oiseau moqueur, l'oiseau qui rit comme un enfant. « Allez, laisse, dit le veilleur à l'oiseau, laisse, c'est un vieux, sauve-toi, va-t'en. » L'oiseau s'envole par la fenêtre, l'oiseau s'envole vers les pays chauds, et le pape reprend son souffle et ses saints esprits. Sauf le respect que je ne vous dois pas, Saint-Père, comme on dit, vous ressemblez à un vieux voyageur de première. Et pourquoi donc? Demande le Saint-Père intrigué et confus, tout en s'assurant d'un petit regard inquiet et circulaire que l'oiseau est bien parti. Quand un vieux voyageur, dit le veillère, quand un vieux voyageur de première passant pour prendre l'air, sa vieille tête par la portière reçoit dans l'œil une escarbille, mais le pape l'interrompt. Ah, foutez-moi la paix à la fin! Je ne suis tout de même pas arrivé à mon âge et à ma haute situation pour me laisser emmerder par un malheureux petit libre-penseur de rien du tout, venu je ne sais d'où. Je ne suis pas libre-penseur, dit le veilleur. Je suis athée. Hein? Quoi, dit le Saint-Père? Et l'autre, dans le tuyau de son oreille, l'autre se met à gueuler. Allô, allô, Saint-Père, vous m'entendez? Athée! A comme absolument athée, T comme totalement athée, H comme hermétiquement athée, et accent aigu comme étonnamment athée, E comme entièrement athée. Pas libre-penseur, athée. Il y a une nuance. Mais toi, les nuances, tu t'en balances. Et puis, dans le fond, ce que je t'en dis... J'étais venu pour te voir, je t'ai vu, ça me suffit. Et le veilleur de nuit fait le geste de s'en aller. Mais le successeur de Saint Lance-Pierre, de Saint Lance-Paul et de Saint Lance-Flamme lui met doucement la main sur l'épaule et le regarde avec une compatissante tristesse, simulée d'une façon si parfaite que le saint simulateur professionnel, pris lui-même par le ronron de sa simulation, verse les authentiques larmes de la bonté, de l'humilité, de la résignation et de la désolation. Et il gémit. Poussière, tout n'est que poussière, et tout retournera en poussière. Tais-toi, dit le veilleur, tu parles comme un aspirateur. Alors, le secrétaire général de la chrétienté s'arrête de philosopher, et fusillant le veilleur du regard, en secouant sa noble tête de vieillard sur son goitre somptueux, il entonne d'une voix grave les commandements de Dieu. Garde à vous, repos éternel, garde à vous. Garde à vous, l'arme à la bretelle, en avant-marche et paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté, section halte. Couchez-vous, aplatissez-vous, humiliez-vous, enfouissez-vous, rompez. Garde à vous, contre tous ceux qui osent lever la tête, feu à volonté. Mais soudain le Saint-Père cesse de gesticuler, et voit en face de lui le veilleur déguisé en Saint-Père, et ce sans aucun doute pour se foutre de lui. Le veilleur déguisé en Saint-Père avec, lui, comme lui, une tiare sur la tête et qui, comme lui, fait des grands gestes en poussant de grands cris. Blême de rage, rouge de honte, vert de gris, le pape se jette sur son ennemi. Avanti, avanti! Et le voilà le nez ensanglanté. Sur la glace, où le Saint-Père s'est cogné, contre son auguste reflet de Saint-Père, il y a une petite tache de sang. Une petite tache de sang inodore, incolore, sans saveur, un simulacre de tache de sang. Pour ce qui est du veilleur, il est parti depuis longtemps. Eh oui, ça fait déjà un bon quart d'heure qu'il est parti, laissant là le pape avec ses grandes manœuvres, ses grandes orgues, ses petits ennuis. Dans la rue, la nuit est tombée, et le veilleur marche dans la rue. Dans la nuit, il tombe une toute petite pluie. Sa lanterne est allumée. Quelqu'un court derrière lui. Il se retourne et voit dans la lumière un chat de gouttière. Et le veilleur de nuit s'arrête. Le chat aussi. « Tu devrais venir par là, dit le chat. Il y a un oiseau blessé. Des fois que tu serais vétérinaire, on ne sait jamais. » Il doit venir de très loin, cet oiseau. Ses ailes étaient couvertes de poussière. Il volait, il saignait. Et puis il est tombé très vite, comme ça, d'un seul coup, comme une pierre, j'ai sauté dessus pour le manger. Mais il s'est mis à chanter. Et sa chanson était si belle que je me suis privé de dîner. Je crois que je le connais, dit le veilleur. Et le voilà parti avec le chat de gouttière sous la pluie. Ils arrivent sur une petite place. C'est là, dit le chat. C'est ici, dit le veilleur, je m'en doutais. Il se baisse et ramasse l'oiseau. Je crois qu'il en a pris un bon coup dans l'aile, dit le chat. Son aile gauche est arrachée. Il n'en a pas pour longtemps. Ta gueule, dit le veilleur. Le chat comprend qu'il faut se taire. Il se tait. Et dans la main du veilleur, l'oiseau de la jeunesse commence à délirer. Ah, ça m'embêterait de mourir. J'ai vu des choses si belles, si terribles, si vivantes. Et puis des choses si drôles, si étonnantes. Ah, ça m'embêterait de mourir. J'ai un tas de choses à dire. Et puis, j'ai envie de rire, j'ai envie de chanter. « Tais-toi, dit le veilleur, tais-toi si tu veux guérir. Mais puisque je te dis que j'ai vu des choses... » L'oiseau se retourne dans la main du veilleur comme un malade dans son lit. Le chat inquiet fronce les sourcils. L'oiseau raconte. « Je volais très vite, si vite. Et je voyais, au-dessus des baliards, j'ai vu l'été qui s'en allait. Et sur le bord de la mer, la Catalogne qui bougeait. Et partout des vivants, des garçons et des filles qui se préparaient à mourir et qui riaient. J'ai vu la première neige sur Madrid, la première neige sur un décor de suie, de cendres et de sang. Et j'ai revu celle qui était si belle, la jolie fille du printemps. Elle était debout au milieu de l'hiver. Elle tenait à la main une cartouche de dynamite. Ses espadrilles prenaient l'eau. Le soleil qu'elle portait sur l'oreille était d'un rouge éclatant. C'était la fleur de la guerre civile, la fleur vivante comme un sourire, la fleur rouge de la liberté. Doucement, j'ai volé autour d'elle. Sous son sein gauche, son cœur battait. Et tout le monde l'entendait battre, le cœur de la révolution. Ce cœur que rien ne peut empêcher de battre, que rien, personne ne peut empêcher d'abattre, ceux qui veulent l'empêcher de battre, de se battre. Ne t'excite pas comme ça, dit le veilleur. Tu as la fièvre. Tu saignes, ton aile est arrachée, essaie de dormir, laisse-moi faire, je te guérirai. Et le veilleur s'en va, la casquette sur la tête, l'oiseau blessé dans le creux de la main, le chat de gouttière tient la lanterne et il leur montre le chemin.
Après cette diction de 32 minutes du texte « Crossant l'air » de Jacques Prévert de 1936, suivi d'une courte pièce musicale de Joseph Cosma interprétée par Gérard Pellier, « La question éternelle », nous vous proposons d'écouter maintenant la tentative de description d'un dîner de tête à Paris-France. Toujours une diction par Jean-François Moulin, en direct depuis nos studios, le 7 octobre 2002, cette fois. En préambule de ce texte, nous vous proposons aussi un extrait de l'entretien avec Jean-François Moulin au début de cette émission d'octobre 2002. La lecture en sera suivie en conclusion de l'émission d'une diction par Jacques Prévert lui-même de son texte « Pater Noster ».
D'où vous vient cette passion prégnante pour... L'œuvre de Prévert.
Oui, c'est en effet une bonne question, une grande question. Ben, je crois avant tout que c'est un observateur contemporain qui est connu, je crois que c'est celui qui est connu, le poète qui est connu dans le monde entier. Mais c'est vrai que Prévert est surtout connu pour ses films, il est connu pour ses chansons. Il est aussi connu pour ses textes, mais un petit peu moins, il faut le dire. Donc, le travail d'un comédien, qui est aussi le travail d'un chercheur, ben, c'est aller dénicher, chercher des textes d'abord qu'on aime, des textes qu'on a envie de dire, des textes que les gens ont envie de recevoir. Et je crois à peu près, comme tous les textes de Prévert, bon, le choix que j'ai fait dans ce second spectacle, au Carré 30, c'est aller en fait dénicher, oui, des textes qui parlent des gens, toujours. De toute façon, Prévert a toujours parlé des gens, a toujours parlé des autres, mais avec ce regard complètement humain. Et chaque fois qu'on lit Prévert, ou qu'on dit Prévert, ou qu'on écoute Prévert, on a du plaisir en fait à l'entendre et puis à regarder peut-être un petit peu la manière dont on vit, hein. Par exemple le premier texte qui est Dîner de tête, ça nous rappelle bien les hommes politiques, hein. C'est un texte qui a été écrit en 31 avec une arrivée de ces hommes politiques à l'Élysée qui se sont fait une tête spéciale ce jour-là. Et c'est vrai, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on les retrouve. Alors ça, je trouve ça amusant, décapant, et on a envie de dire ce genre de texte. Ceux qui copieusement, ceux qui tricolorent, ceux qui inaugurent, ceux qui croient, ceux qui croient croire, ceux qui croient croire, ceux qui ont des plumes, ceux qui grignotent, ceux qui andromaquent, ceux qui majusculent, ceux qui chantent en mesure, ceux qui brossent à reluire, ceux qui ont du ventre, ceux qui baissent les yeux, ceux qui savent découper le poulet, ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête, ceux qui bénissent les meutes, ceux qui font les honneurs du pied, ceux qui debout les morts, ceux qui baïonnettons, ceux qui donnent des canons aux enfants, ceux qui donnent des enfants aux canons, ceux qui flottent et ne sombrent pas, ceux qui ne prennent pas le piré pour un homme, ceux que leurs ailes de géant empêchent de voler, ceux qui plantent en rêve des tessons de bouteille sur la grande muraille de Chine, ceux qui mettent un loup sur leur visage quand ils mangent du mouton, ceux qui volent des œufs et qui n'osent pas les faire cuire, ceux qui ont 4810 mètres de Mont Blanc, 300 de Tour Eiffel, 25 centimètres de poitrine, et qui en sont fiers, ceux qui mamellent de la France, ceux qui courent, volent et nous vengent, tout cela et beaucoup d'autres entraient fièrement à l'Élysée en faisant craquer les graviers. Tout cela se bousculait, se dépêchait, car il y avait un grand dîner de têtes et chacun s'était fait celle qu'il voulait. L'un, une tête de pipanterre, l'autre, une tête d'amiral anglais. Il y en avait des têtes de boules puantes, des têtes de galifets, des têtes d'animaux malades de la tête, des têtes d'Auguste Comte, des têtes de Rouget de Lille, des têtes de Sainte-Thérèse, des têtes de fromage de tête, des têtes de pied, des têtes de Monseigneur et des têtes de Crémier. Quelques-uns, pour faire rire le monde, portaient sur leurs épaules de charmants visages de veaux. Et ces visages étaient si beaux et si tristes, avec les petites herbes vertes dans le creux des oreilles, comme le goémon dans le creux des rochers, que personne ne les remarquait. Une mère, à tête de morte, montrait en riant sa fille à tête d'orpheline au vieux diplomate ami de la famille qui s'était fait la tête de Soleilland. C'était véritablement délicieusement charmant, et d'un goût si sûr que, lorsque arriva le président avec une somptueuse tête d'œuf de colon, ce fut du délire. « C'était simple, mais il fallait y penser, » dit le président en dépliant sa serviette. Et devant tant de malice et de simplicité, les invités ne peuvent maîtriser leur émotion. À travers des yeux cartonnés de crocodile, un gros industriel verse de véritables larmes de joie. Un plus petit mordille la table, de jolies femmes se frottent les seins, très doucement, et l'amiral, emporté par son enthousiasme, boit sa flûte de champagne par le mauvais côté, croque le pied de la flûte et l'intestin perforé, meurt debout cramponné au bastingage de sa chaise, en criant « Les enfants d'abord !» Étrange hasard, la femme du naufragé, sur les conseils de sa bonne, s'était le matin même confectionné une étonnante tête de veuve de guerre, avec les deux grands plis d'amertume de chaque côté de la bouche et les deux petites poches de la douleur grises sous les yeux bleus. Dressée sur sa chaise, elle interpelle le président et réclame à grands cris l'allocation militaire et le droit de porter sur sa robe du soir le sextant du défunt en sautoir. Un peu calmée, elle laisse ensuite son regard de femme seule errer sur la table, et voyant parmi les hors-d'œuvre des filets de hareng, elle en prend machinalement en sanglotant, puis en reprend pensant à l'amiral qui n'en mangeait pas si souvent de son vivant et qui pourtant les aimait tant. Stop ! C'est le chef du protocole qui dit qu'il faut s'arrêter de manger, car le président va parler. Le président s'est levé. Il a brisé le sommet de sa coquille avec son couteau pour avoir moins chaud, un tout petit peu moins chaud. Il parle. Et le silence est tel qu'on entend les mouches voler.
et on les entend si distinctement voler qu'on n'entend plus du tout le président parler, et c'est bien regrettable, parce qu'il parle des mouches précisément et de leur incontestable utilité dans tous les domaines, et dans le domaine colonial en particulier, car sans les mouches, pas de chasse-mouches, sans chasse-mouches, pas de dédalger, pas de consul, pas d'affront à venger, pas d'olivier, pas d'Algérie, pas de grande chaleur, et les grandes chaleurs, messieurs, les grandes chaleurs, c'est la santé des voyageurs, d'ailleurs. Mais quand les mouches s'ennuient, elles meurent. Et toutes ces histoires d'autrefois, toutes ces statistiques, les emplissant d'une profonde tristesse, elles commencent par lâcher une patte du plafond, puis l'autre, et tombent comme des mouches dans les assiettes, sur les plastrons, mortes, comme le dit la chanson. « La plus noble conquête de l'homme, c'est le cheval, dit le président, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. » C'est la fin du discours. Comme une orange abîmée, lancée très fort contre un mur par un gamin mal élevé, la Marseillaise éclate, et tous les spectateurs éclaboussés par le vert-de-gris et les cuivres se dressent congestionnés, ivres d'histoire de France et de Pontécanet. Tous sont debout, sauf l'homme à tête de Rouget de Lille, qui croit que c'est arrivé et qui trouve qu'après tout ce n'est pas si mal exécuté. Et puis, peu à peu, la musique s'est calmée, et la mère à tête de morte en a profité pour pousser sa petite fille à tête d'orpheline du côté du président. Les fleurs à la main, l'enfant commence son compliment. « Monsieur le président !» Mais l'émotion, la chaleur, les mouches, voilà qu'elle chancelle et qu'elle tombe le visage dans les fleurs, les dents serrées comme un sécateur. L'homme à tête de bandage hernière et l'homme à tête de flegmont se précipitent et la petite est enlevée, autopsiée, et reniée par sa mère, qui, trouvant sur le carnet de bal de l'enfant des dessins obscènes qu'on n'en voit pas souvent, n'ose penser que c'est le diplomate ami de la famille et dont dépend la situation du père qui s'est amusé si légèrement. Cachant le carnet dans sa robe, elle se pique le sein avec le petit crayon blanc et pousse un long hurlement. Et sa douleur fait peine à voir à ceux qui pensent qu'assurément, voilà bien là la douleur d'une mère qui vient de perdre son enfant. Fière d'être regardée, elle se laisse aller, elle se laisse écouter, elle gémit, elle chante. « Où donc est-elle, ma petite fille chérie? Où donc est-elle, ma petite Barbara, qui donnait de l'herbe aux lapins et des lapins au cobra? » Mais le président, qui sans doute n'en est pas son premier enfant perdu, fait un signe de la main et la fête continue. Et ceux qui étaient venus pour vendre du charbon et du blé vendent du charbon et du blé, et de grandes îles entourées d'eau de tous côtés, de grandes îles avec des arbres à pneus et des pianos métalliques bien stylés pour qu'on n'entende pas trop les cris des indigènes autour des plantations quand les colons facétieux essaient après dîner leurs carabines à répétition. Mais tout à coup, dans un nuage de magnésium, le chef du protocole est pris en flagrant délit, remuant une tasse de chocolat glacé avec une petite cuillère à café. « Il n'y a donc pas de cuillère spéciale pour le chocolat glacé, c'est insensé, dit le préfet. On aurait dû penser, le dentiste a bien son davier, le papier son coupe-papier, et les radis roses leur ravier. » Mais soudain, tous de trembler, car un homme avec une tête d'homme est entré, un homme que personne n'avait invité et qui pose doucement sur la table la tête de Louis XVI dans un panier. Et c'est vraiment la grande horreur. Les dents, les vieillards et les portes claquent de peur. « Nous sommes perdus, nous avons décapité un serrurier !» hurle en glissant sur la rampe d'escalier les bourgeois de Calais dans leurs chemises grises comme le cap griné. La grande horreur, le tumulte, le malaise, la faim des haricots, l'état de siège et dehors en grande tenue les mains noires sous les gants blancs. Le factionnaire, qui voit dans les ruisseaux du sang et sur sa tunique une punaise, pense que ça va mal et qu'il faut s'en aller s'il en est encore temps. « J'aurais voulu, dit l'homme, en souriant, vous apporter aussi les restes de la famille impériale qui repose, paraît-il, au caveau caucasien, rue Pigalle. Mais les cosaques qui pleurent, dansent et vendent à boire veillent jalousement leur mort. On ne peut pas tout avoir. Je ne suis pas Ruy Blas, je ne suis pas Cagliostro, je n'ai pas la boule de verre, je n'ai pas le marc de café, je n'ai pas la barbe en ouate de ceux qui prophétisent « j'aime beaucoup rire en société ». Je parle pour les grabataires, je monologue pour les débardeurs, je phonographe pour les splendides idiots des boulevards extérieurs, et c'est tout à fait par hasard si je vous rends visite dans votre petit intérieur. Premier qui dit « et ta sœur » est un homme mort. Personne ne le dit, il a tort. C'était pour rire. Il faut bien rire un peu. Et si vous vouliez, je vous emmènerais visiter la ville. Mais vous avez peur des voyages. Vous savez ce que vous savez, que la tour de Pise est penchée.
et que le vertige vous prend quand vous vous penchez vous aussi à la terrasse des cafés. Et pourtant vous seriez bien amusé. Comme le président quand il descend dans la mine, comme Rodolphe au tapis franc quand il va voir le Chourineur, comme lorsque vous étiez enfant et qu'on vous emmenait au jardin des plantes voir le grand amanoir. Vous auriez pu voir les truands sans cour des miracles, les lépreux sans cliquettes et les hommes sans chemise couchés sur les bancs, couchés pour un instant car c'est défendu de rester là un peu longtemps. Vous auriez vu les hommes dans les asiles de nuit faire le signe de la croix pour avoir un lit, et les familles de 8 enfants qui crachent à 8 dans une chambre. Si vous aviez été sage, vous auriez eu la chance et le plaisir de voir le père qui se lève parce qu'il a sa crise, la mère qui meurt doucement sur son dernier enfant, et le reste de la famille qui s'enfuit en courant et qui, pour échapper à sa misère, tente de se frayer un chemin dans le sang. Il faut voir, vous dis-je, c'est passionnant. Il faut voir à l'heure où le bon pasteur conduit ses brebis à la villette, à l'heure où le fils de famille jette avec un bruit mou sa gourme sur le trottoir, à l'heure où les enfants qui s'ennuient changent de lit dans leur dortoir. Il faut voir l'homme couché dans son lit cage, à l'heure où son réveil va sonner. Regardez-le, écoutez-le ronfler, il rêve. Rêve qu'il part en voyage, rêve que tout va bien, rêve qu'il a un coin, mais l'aiguille du réveil rencontre celle du train, et l'homme levé plonge la tête dans la cuvette d'eau glacée si c'est l'hiver, fétide si c'est l'été. Regardez-le se dépêcher, boire son café crème, entrer à l'usine, travailler. Mais il n'est pas encore réveillé. Le réveil n'a pas sonné assez fort. Le café n'était pas assez fort. Il rêve encore. Rêve qu'il est en voyage, rêve qu'il a un coin, se penche par la portière et tombe dans un jardin, tombe dans un cimetière, se réveille et crie comme une bête. 2 doigts lui manquent, la machine l'a mordu. Il n'était pas là pour rêver. Et comme vous pensez, ça devait arriver. Vous pensez même que ça n'arrive pas souvent et qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Vous pensez qu'un tremblement de terre en Nouvelle-Guinée n'empêche pas la vigne de pousser en France, les fromages de se faire et la terre de tourner. Mais je ne vous ai pas demandé de penser. Je vous ai dit de regarder, d'écouter, pour vous habituer, pour n'être pas surpris d'entendre craquer vos billards le jour où les vrais éléphants viendront reprendre leur ivoire. Car cette tête si peu vivante que vous remuez sous le carton mort, cette tête blême sous le carton drôle, cette tête avec toutes ses rides et toutes ses grimaces instruites, un jour vous la hocherez avec un air détaché du tronc, et quand elle tombera dans la sciure, vous ne direz ni oui ni non. Et si ce n'est pas vous, ce sera quelques-uns des vôtres, car vous connaissez les fables avec vos bergers et vos chiens, et ce n'est pas la vaisselle cérébrale qui vous manque. Je plaisante. Et vous savez, comme dit l'autre, hein, rien suffit à changer le cours des choses. Un peu de fulmicoton dans l'oreille d'un monarque malade et le monarque explose. La reine accourt à son chevet, il n'y a pas de chevet, il n'y a plus de palais, tout est plutôt ruine et deuil. La reine sent sa raison sombrer. Pour la réconforter, un inconnu avec un sourire, avec un bon sourire, lui donne le mauvais café. La reine en prend, la reine en meurt, et les valets collent des étiquettes sur les bagages des enfants. L'homme au bon sourire revient, ouvre la plus grande malle, pousse les petits princes dedans, met le cadenas à la malle à la consigne, et se retire en se frottant les mains. Et quand je dis, monsieur le président, mesdames, messieurs, le roi, la reine, les petits princes, c'est pour envelopper les choses, car on ne peut pas raisonnablement blâmer les régicides qui n'ont pas de roi sous la main s'ils exercent parfois leur don dans leur entourage immédiat. Particulièrement parmi ceux qui pensent qu'une poignée de riz suffit à nourrir toute une famille de Chinois pendant de longues années. Parmi celles qui ricanent dans les expositions parce qu'une femme noire porte dans son dos un enfant noir et qui porte depuis 6 ou 7 mois dans leur ventre blanc un enfant blanc et mort. Parmi les 30 000 personnes raisonnables, composées d'une âme et d'un corps qui défilèrent le 6 mars à Bruxelles, musique militaire en tête devant le monument élevé aux pigeons soldats, et parmi celles qui défileront demain à Brive-la-Gaillarde, à Rosa-la-Rose ou à Carpa-la-Juive, devant le monument du jeune et vieux marin qui périt à la guerre comme tout un chacun. Mais une carafe, lancée de loin par un colombophile indigné, touche en plein front l'homme qui racontait comment il aimait rire. Il tombe. Le pigeon soldat est vengé. Les cartonniers officiels écrasent la tête de l'homme à coups de pied. Et la jeune fille qui trempe en souvenir le bout de son ombrelle dans le sang éclate d'un petit rire charmant. La musique reprend. La tête de l'homme est rouge, comme une tomate trop rouge. Au bout d'un air, un œil pend. Mais sur le visage démoli, l'œil vivant, le gauche, brille comme une lanterne sur des ruines. « Emportez-le !» dit le président.
et l'homme couché sur une civière, et le visage caché par une pèlerine d'agents sort de l'Élysée horizontalement, un homme derrière, un autre devant. « Il faut bien rire un peu, » dit-il au factionnaire. Et le factionnaire le regarde passer avec ce regard figé qu'ont parfois les bons vivants devant les mauvais. Découpé dans le rideau de fer de la pharmacie, une étoile de lumière brille. Et comme des rois mages, en mal d'enfant Jésus, les garçons bouchers, les marchands d'édredon et tous les hommes de cœur contemplent l'étoile qui leur dit que l'homme est à l'intérieur, qu'il n'est pas tout à fait mort, qu'on est peut-être en train de le soigner, et tous attendent qu'il sorte avec l'espoir de l'achever. Ils attendent, et bientôt à quatre pattes à cause de la trop petite ouverture du rideau de fer, le juge d'instruction pénètre dans la boutique. Le pharmacien l'aide à se relever et lui montre l'homme mort, la tête appuyée sur le pèse-bébé. Et le juge se demande, et le pharmacien regarde le juge se demander, si ce n'est pas le même homme qui jeta les confettis sur le corbillard du maréchal et qui jadis plaça la machine infernale sur le chemin du petit caporal. Et puis, ils parlent de leurs petites affaires et de leurs enfants, de leurs bronches. Le jour se lève, on tire les rideaux chez le président. Dehors, c'est le printemps. Les animaux, les fleurs, dans les bois de Clamart, on entend les clameurs des enfants qui se marrent. C'est le printemps, l'aiguille s'affole dans sa boussole, le binocard entre au bocard et la grande dolicocéphale sur son sofa s'affale et fait la folle. Il fait chaud. Amoureuse, les allumettes, disons, se vautrent sur leur trottoir. C'est le printemps, l'acné des collégiens, et voilà la fille du sultan. Et le dompteur de Mandragore, voilà les pélicans, les fleurs sur les balcons, voilà les arrosoirs, c'est la belle saison, et le soleil brille pour tout le monde. Il ne brille pas dans les prisons. Il ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la mine, ceux qui passent leurs vacances dans les usines, ceux qui crachent leurs poumons dans le métro, ceux qui ont le pain quotidien relativement hebdomadaire, ceux qui pour se chauffer vont dans les églises l'hiver, ceux qui voyagent sous les roues, ceux qui regardent la Seine couler, ceux qu'on engage, qu'on remercie, qu'on augmente, qu'on diminue, qu'on manipule, qu'on fouille, qu'on assomme, ceux dont on prend les empreintes, ceux qu'on fait sortir des rangs au hasard et qu'on fusille, ceux qu'on fait défiler devant l'arc, ceux qui vieillissent plus vite que les autres, ceux qui ne se sont pas baissés pour ramasser l'épingle, et tous ceux qui crèvent d'ennui le dimanche après-midi, parce qu'il voit venir le lundi, et le mardi, et le mercredi, et le jeudi, et le vendredi, et le samedi, et le dimanche après-midi.
Pater Noster, notre Père qui es aux cieux, restez-y, et nous nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et puis ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité, avec son petit canal de l'Ourcq, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan Pacifique et ses deux bassins aux Tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes les merveilles du monde qui sont là, simplement sur la terre, offerte à tout le monde, éparpillée, émerveillée elle-même d'être de telles merveilles, et qui n'ose se l'avouer, comme une jolie fille nue qui n'ose se montrer, avec les épouvantables malheurs du monde, qui sont légions, avec leurs légionnaires, avec leurs tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs reîtres, avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles, et avec les vieux cons, avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons.